France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Pointer l'Ukraine malgré tout après l'attentat de Moscou. La Russie évoque aujourd'hui un financement ukrainien, des transferts de fonds aux assaillants, propagande absurde, dénonce Washington comme l'ambassadeur d'Ukraine en France. Il s'est confié à France Inter. L'actualité, c'est encore le congrès de la FNSEA. Les agriculteurs réclament plus que les mises en scène de bottes de paille, malgré de nouvelles promesses. La situation cataclysmique à Haïti, c'est l'ONU qui le dit. Et puis Nino sera sur la scène du Golden Coast, premier festival dédié au hip-hop à Dijon, ce sera en septembre prochain. Juste après ce journal, la suite de notre journée spéciale, domptez notre téléphone portable, vous nous appelez au 01 45 24 7000.
France Inter.
6 jours après l'attentat qui a fait au moins 143 morts dans la banlieue de Moscou, la Russie entend donc afficher la preuve d'une implication ukrainienne. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes notre correspondant direct de Moscou. Ce sont les enquêteurs russes qui communiquent aujourd'hui. À leur tour, ils désignent la piste ukrainienne sans accuser le gouvernement ukrainien formellement.
Oui, les mots ont leur importance. Dans son communiqué, le comité d'enquête russe annonce donc que les enquêteurs ont réuni suffisamment de preuves pour dire qu'il existe un lien entre les terroristes ayant perpétré l'attaque du Crocus City Hall et les nationalistes ukrainiens. Le comité, qui est l'organe judiciaire en charge des affaires sensibles, placé directement sous l'autorité du Kremlin, n'explique pas qui sont précisément ces nationalistes ukrainiens, mais il affirme que le commando a reçu d'importantes sommes d'argent en provenance d'Ukraine. Les autorités russes n'accusent donc pas formellement Kiev d'avoir commandité l'attaque, mais on s'en rapproche de plus en plus. Et puis ce pas, de toute façon, a déjà été franchi par de nombreux responsables russes de haut niveau, le directeur du FSB, le président de la Douma, notamment. Reste à savoir maintenant dans quel but, avec quelles conséquences. Vladimir Poutine n'a pas réagi au moment où le comité d'enquête communiquait. Il parlait à la télévision du développement des stations balnéaires en Russie. L'ancien président Dmitri Medvedev avait, lui, publié un message quelques heures plus tôt où il parlait des responsables de cet attentat qui se terminait par tuez-les tous.
Sylvain Tronchet, en direct de Moscou. Les États-Unis maintiennent de leur côté que ces allégations sont absurdes, qu'ils avaient transmis une note à Moscou 15 jours avant l'attentat, alertant d'une possible attaque du groupe État islamique. La Maison-Blanche va même jusqu'à parler de marchands de fumier cet après-midi pour qualifier la propagande russe. Aussi parce que Vladimir Poutine, même s'il a finalement admis la responsabilité d'islamistes radicaux, sous-entend donc depuis vendredi une implication ukrainienne et même des pays occidentaux, ce à quoi l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko, répond aujourd'hui au micro de France Inter.
C'est mensonge et tout le monde comprend que c'est mensonge. Et on n'attendait pas la vérité de part d'auteurs de crimes de guerre et d'auteurs de terror. Daesh, c'est Daesh, l'Ukraine, c'est l'Ukraine. Mais il profite pour attaquer l'Ukraine de nouveau. Il a profité cet acte de terror pour renforcer pression pour société, pour mettre dans la société d'un nouveau goulag.
L'ambassadeur d'Ukraine en France à Lyon et avec Mathilde Imberti pour dire aussi l'importance d'accélérer les livraisons d'armes sur le terrain, les avions F-16 notamment, des bombardements sur Mykolaïv, Kherson ou Kharkiv ont tué au moins 3 civils aujourd'hui. Et en France, le ministère des armées alerte sur ce faux site internet invitant quelques 200 000 Français à s'engager en Ukraine. Tout est là pour qu'on y croie. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir.
Le logo, la charte graphique.
Avec en bannière du site une photo d'Emmanuel Macron et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, côte à côte et tout sourire. La phrase d'accroche est enthousiaste. Soyez parmi les premiers à défendre les intérêts de la France en Ukraine. À la clé, une formation pour rejoindre l'infanterie et des promesses qui sembleront farfelues à un œil avisé. Outre les 9 semaines de permission annuelle, la page annonce une remise de 100% sur les services funéraires et une prime d'1 million d'euros versés à la famille du militaire en cas de mort au combat. Depuis la fin de matinée, le site n'est plus accessible. Pour l'heure, le ministère des Armées ne désigne aucun responsable, mais la piste russe ou pro-russe n'est évidemment pas exclue. En tout cas, si la manœuvre peut paraître grossière, elle n'est pas anodine, explique Christine Dugoin-Clément, chercheur pour la chaire risque de la Sorbonne Business School.
Ça peut participer à mettre le doute à la population française pour renforcer la crainte d'un conflit et à créer de la dissension au sein d'un État et en interne pour des pays qui seraient proches de la ligne de la Russie, voire pour la Russie, eh bien de renforcer cette idée d'encerclement et de volonté des Occidentaux, au cas particulier de la France, de participer dans le conflit et donc de les attaquer.
En tout cas, ce site d'opérations informationnelles en rappelle d'autres. En janvier dernier, par exemple, la Russie avait fait fuiter une liste de prétendus mercenaires français présents sur le sol ukrainien, démenti immédiat du ministère des Armées. Et puis tout récemment, sur TikTok et X, entièrement Twitter, une vidéo était devenue virale. Elle montrait des chars français montés sur des wagons en gare de Nîmes, convoyés en Roumanie pour être déployés en Ukraine, indiquait la légende. Simple exercice de préparation opérationnelle avait dû se justifier l'état-major des armées.
Et la France ne se prive plus à dénoncer les tentatives de déstabilisation russe ces dernières semaines. La Russie s'affirme comme l'acteur le plus agressif sur le champ informationnel, a notamment dit Viginum, l'arme de l'État pour traquer les ingérences étrangères.
Il avait promis de venir avec du concret au congrès de la FNSEA.
Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, à Dunkerque aujourd'hui pour clôturer le congrès du premier syndicat agricole, alors que la colère couve toujours, malgré les concessions du gouvernement et de l'Europe. C'est le chef de l'État que les agriculteurs attendent, et pas au calende grec, martèle le patron du syndicat, Mathilde Dehimi, sur place.
La salle bourdonne, puis explose quand le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, lance les premières piques visant le premier ministre et le président.
La mise en scène de la botte de paille pour faire agriculteur, c'est pas sérieux. Inviter à la table des discussions les soulèvements de la terre, que le gouvernement lui-même a tenté de sortir du débat démocratique, c'est une faute. L'énergie perdue dans ces manœuvres stériles, mettez-la à profit pour répondre à une demande simple. Quand et comment les mesures annoncées vont-elles devenir effectives dans nos fermes ?
Le syndicat demande un calendrier très précis. Sur scène, Marc Fesneau enchaîne les bilans sur ce qui avance et manque encore, promet des avancées sur les retraites, le nitrate et l'eau. 100 projets de réserve hydraulique seront débloqués cette année, annonce le ministre.
Il faut des Saintes-Solines. Si on a besoin d'eau, il faut du stockage. Et s'il y a du stockage, il faut que ce que nous décidons en haut lieu, ça s'applique. Parce que sinon, c'est le discrédit de la parole politique, la mienne, et puis celle de tout le monde au passage.
Un dernier mot ministériel. Quand soudain, Régis Desrumaux, président de la FDSEA de l'Oise, surgit du haut de l'estrade pour invectiver sans succès Marc Fesneau.
Les annonces qui sont faites, c'est pas suffisant. Il n'y a rien de concret.
Jérôme Barthès, de l'Aude, espère au moins une avancée sur les rétentions d'eau.
Il faut qu'au niveau local, au niveau des conseils régionaux et aussi agences de l'eau, ils respectent la parole du ministre. L'argent au ministère ne fera pas tout, mais ça peut être un bon prix.
Les élus appréhendent leur retour et la frustration de leurs adhérents. Il faudra plus, disent-ils, pour apaiser la colère.
Mathilde Dehimi et Florent Layani au congrès de la FNSEA à Dunkerque, alors qu'à Tours et à Nîmes aujourd'hui, une centaine d'agriculteurs ont manifesté pour réclamer le versement des aides de la PAC, notamment promise au 15 mars et toujours pas reçu, dénonce-t-il. Aujourd'hui, le Premier ministre Gabriel Attal était plutôt en défense de sa nouvelle réforme de l'assurance chômage. À l'usine L'Oréal de Rambouillet, il a parlé de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen qui ont pour lui le même combat, celui du tout à l'oc, dit-il. À 19h08, vous êtes peut-être déjà à table, en famille. Et où sont vos téléphones portables ? Cette question pour poursuivre notre journée spéciale dompter les écrans sur Inter. Quelles règles poser en famille aux adolescents en âge d'avoir un smartphone et comment les faire respecter ? En s'invitant dans cette famille lilloise, Faustine Calmel a constaté que ce n'était pas si simple.
Avant de débuter l'interview, il faut réunir tout le monde. Ici, il y a les parents, Élise et Julien, les enfants, Elio 15 ans et Ninon, bientôt 11.
Mais moi, j'ai que comme application Spotify et messages.
Et des règles strictes sur les écrans.
Un code sur l'ordinateur, on a mis un code sur la télé, j'ai mis un code sur ma tablette. Et sur les téléphones, on a un accord parental sur certaines applications ou pas.
Plus un temps de téléphone limité à 2h45 par jour pour Elio et obligation de remettre l'appareil aux parents à 22h.
Tous les soirs. Il faut aller le chercher dans sa chambre, lui redire il est 22h, il va nous dire encore 5 minutes, on va lui laisser 5 minutes, il va nous demander encore 7 minutes.
Avec ce temps d'écran, j'ai toujours l'impression que quand je suis sur mon téléphone, il y a toujours vous en fait, qui est là pour me contrôler et qui m'empêche de faire certaines choses des fois.
Le couple a bien essayé de lever toutes les barrières.
Elio nous disait, vu que j'ai pas assez d'écran, je consomme tout et j'ai envie de plus. Et donc c'est pour ça qu'on avait laissé effectivement il y a 2 ans en disant ok, on va t'enlever les temps d'écran. Et pareil sur la télé récemment, et en fait on se rend compte que finalement il n'y a plus de limite. Qu'est-ce qui crée finalement ce besoin-là? Est-ce que c'est nous qui avons créé ce besoin-là? Et finalement, on se rend compte que, de notre point de vue, c'est pas ça, quoi.
Conflit de génération, répond Elio.
Comparé à tous mes copains et tout ça, je me sens un peu différent.
Il est le seul de son lycée, assure-t-il, à être ainsi limité.
Le téléphone conflit de génération, est-ce qu'il nous rend social, insupportable? On poursuit la discussion juste après ce journal dans le téléphone sonne. Nicole Belloubet suspend l'accès à la messagerie des ENT dans tous les établissements, sans doute jusqu'aux vacances de printemps, à titre préventif. Dit la ministre de l'Éducation nationale qui l'annonce à l'instant, alors que l'enquête sur les piratages de ENT, ces espaces numériques de travail des collèges et lycées, avance. Un jeune de 17 ans a été arrêté près de Paris. Il est en garde à vue. Depuis la semaine dernière, c'est plus de 300 messages malveillants qui ont été reçus dans 44 départements. Et puis en bref, encore les réquisitions au procès du photographe surnommé le violeur de Tinder. 17 femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. 19 ans de réclusion criminelle ont été requis.
On est loin d'un retour à l'ordre public à Haïti.
Presque 3 semaines après l'annonce de la démission du Premier ministre, les gangs font toujours la loi. Et alors qu'une centaine de Français a été évacuée hier, l'ONU parle aujourd'hui d'une situation cataclysmique. Jérémy Lanche est à Genève.
La corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance conjuguées aux actions des bandes armées ont plongé Haïti au bord de l'effondrement, dit le haut-commissaire aux droits de l'homme Volker Türk. Malgré l'embargo sur les armes, celles-ci continuent d'affluer vers l'île. Résultat, les gangs disposent d'une puissance de feu supérieure à la police, complètement débordée, et les exactions se multiplient.
Les gangs ont continué à utiliser la violence sexuelle pour brutaliser, punir et contrôler la population. Certaines femmes sont forcées d'avoir des relations sexuelles avec des membres de gangs. Le viol d'otages kidnappés continue d'être utilisé pour contraindre les familles à payer des rançons. Les enfants continuent d'être recrutés et maltraités par les gangs. Toutes ces pratiques doivent cesser immédiatement.
Face à l'insécurité, des groupes d'autodéfense se sont constitués pour se faire justice eux-mêmes. Une loi du talion qui fait encore plus de victimes. Des centaines de personnes ont ainsi été lynchées depuis l'an passé. Restaurer la sécurité est nécessaire, mais pas suffisant, dit encore l'ONU. L'état de droit doit rapidement revenir à Haïti. Toujours en attente d'un gouvernement de transition depuis la démission du Premier ministre contesté Ariel Henry le 11 mars. À Genève, Jérémy Lanche, RFI pour France Inter.
C'est au tour de la Cour internationale de justice d'ordonner à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre la distribution sans délai d'une aide alimentaire aux Palestiniens dans la bande de Gaza. La journée d'aujourd'hui a été celle de nouveaux combats autour de plusieurs hôpitaux de l'enclave. C'est le troisième et dernier jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Brésil. Les deux présidents sont encore en train de discuter avant une conférence de presse attendue dans la soirée. Maxence Lambrecq est notre envoyé spécial. Il nous raconte une scène qui dit leur état d'esprit diplomatique.
Ils aiment sortir du cadre. Mardi 17h, première rencontre sur un bateau pour rejoindre l'île de Kombu. Leur conseiller les dirige vers une pièce climatisée, de beaux fauteuils, des chaises en randonnion. Les diplomates ont longuement négocié la liste des privilégiés. Tout le monde s'assoit. Et au bout de 2 minutes, Lula et Emmanuel Macron se lèvent. Leurs interprètes les suivent. Ils montent prendre un verre sur le ponton en plein soleil à bas le protocole. Le lendemain, casque sur la tête dans un hélicoptère entre Rio et Itaguaï, ils évoquent des dossiers sensibles dans un boucan assourdissant. Sortir des figures imposées, c'est l'objectif de part et d'autre. Lula invite Macron à se distinguer des États-Unis. Macron invite Lula à se distinguer des BRICS, l'alliance des pays du Sud. Et à en croire la délégation française, ça fonctionne un peu. Le Brésil est le plus disponible pour échanger avec nous sur l'Ukraine et il ne demande pas à Kiev de céder. Tant mieux, car Lula accueillera le prochain sommet du G20 à Rio en novembre. On essaie de casser un jeu de rôle qui est trop facile, la fragmentation du monde n'est pas inéluctable. Les diplomates français ne parlent donc que de sensibilités différentes et ne retiendront de cette journée que les points de convergence, le bain de soleil plutôt que la salle climatisée.
Maxence Lambrecq depuis le Brésil. Une quarantaine de pays étrangers vont envoyer des bras en France pour aider à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Une démarche classique pour les grandes compétitions. Plus de 2000 renforts l'été prochain tout de même, alors qu'il n'était que 160 pour le mondial de rugby par exemple. Les équipes cynophiles sont particulièrement demandées. L'organisation de la compétition compte aussi sur tous les bénévoles, plus de 45 000 mobilisés. Encore faut-il avoir les moyens pour ceux qui n'habitent pas la région parisienne. Et en Occitanie, certains volontaires ont dû renoncer à leur rêve olympique. Alexandre Vaux.
Plus de la moitié des bénévoles, faut le savoir, sont affectés en région parisienne et donc il faut pouvoir déjà se payer le déplacement. C'est pas forcément évident, notamment quand on a 20 ans. C'est le cas de Chloé en première année de management du sport à Toulouse.
On a eu la chance que Pauline, qui est dans notre classe, nous a dit qu'on pouvait faire une vente de crêpes et de cookies à la boucherie de son père, boucherie Chaumont à Montauban, pour pouvoir payer notre déplacement.
Et une fois arrivé à Paris, le parcours du combattant se poursuit pour trouver un logement. C'est le point noir, les tarifs sont exorbitants. 1000 euros la nuit en moyenne à Paris cet été, sinon il faut s'éloigner du centre ou faire jouer ses relations. Ça dépend aussi sur quel site on sera affecté. Et les informations arrivent au compte-gouttes, explique Jérémy, 18 ans.
Moi, j'ai eu les sports que je voulais, donc le badminton. On ne sait pas si on pourra assister à des matchs ou à des rencontres. On a aussi des vidéos envoyées par tuto tous les mois. Ils nous montrent par exemple des journées types qu'on peut avoir en fonction de notre poste qu'on a sur le lieu de l'événement.
En fait, seuls les repas seront fournis et la tenue, soit 4 beaux t-shirts rayés façon marinière sur un fond bleu vert en souvenir des JO.
Alexandre Vaux, France Bleu, Occitanie. 25 années derrière les barreaux pour l'ex-roi des crypto-monnaies, Sam Bankman-Fried, accusé d'avoir volé 8 milliards de dollars aux clients de sa plateforme FTX pour des opérations financières hasardeuses ou pour alimenter son train de vie aux Bahamas.
Une plainte bientôt déposée après la mort d'une deuxième orque au Maryland d'Antibes.
Un mâle de 25 ans, Inuk, 5 mois après la mort d'une première orque. Le site fait actuellement l'objet d'une expertise scientifique diligentée par la justice. La reprise des spectacles qui était prévue n'aura pas lieu. L'association de défense des animaux One Voice, qui milite depuis des années pour que l'on interdise la captivité de ces animaux, ne compte pas en rester là, Laurent Vareille.
L'annonce de la mort d'une deuxième orque en 5 mois n'a en fait pas vraiment surpris Muriel Arnal, la présidente de One Voice.
Déjà en 2019, nous disions, rapport d'experts à l'appui, que c'était l'orque qui avait la mâchoire en plus mauvais état au monde. Il avait les nerfs de chaque dent à vif dans de l'eau glacée. Il souffrait en continu avec les risques d'infection. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes tant battus pour avoir une expertise judiciaire indépendante, notamment pour Inuk et Moana, qui sont aujourd'hui décédés.
C'est cette expertise indépendante ordonnée par la justice et actuellement en cours qui a bloqué le déménagement d'Inuk pour un parc au Japon. Aujourd'hui, l'expertise va se poursuivre par une autopsie et le visionnage de vidéos. Muriel Arnal veut alors rester positive.
Nous espérons que la mort d'Inuk et celle de Moana qui n'avait que 12 ans, on rappelle que les orques mâles vivent au-delà de 60 ans et les femelles au-delà de 80 ans, on espère que ces décès vont suggérer au ministère de réagir vite.
Et dès lundi, l'association a de nouveau rendez-vous avec le ministère de la Transition écologique afin de proposer sa solution pour les deux orques restantes, les emmener dans un sanctuaire marin au large du Canada. De son côté, le parc Marineland a repoussé la reprise des spectacles des orques qui devait avoir lieu dans deux jours, ce qui n'empêchera pas la tenue d'une manifestation d'opposants dès ce samedi à Antibes.
Laurent Vareille, France Bleu Azur, tandis qu'en Nouvelle-Zélande, le roi des Maoris plaide aujourd'hui pour que les baleines aient les droits juridiques semblables aux êtres humains pour protéger cette espace marine vulnérable. Allez, direction Dijon à présent pour le festival Golden Coast, Côte d'Or. On a traduit, on a désormais la programmation complète du festival, bah oui, 100% hip-hop, le premier en France et le dernier nom qui claque, c'est Ninho.
Quelques millions d'albums plus tard, maman, si t'as veut faire un tour, mais c'est pas que c'est niqué, dans la zone y'a trop de vautours. On passe les parties, donc on n'est pas calibré.
Ninho, qui remplit donc deux stades de France complets l'année prochaine. Il sera donc aussi à Dijon. La billetterie, on l'imagine, marche déjà très fort. Vivien Beck, les programmateurs.
Déjà, les retours qu'on a depuis le mois de décembre sont assez incroyables. Hein. On ne s'attendait pas à ce point-là. Et surtout, au-delà de l'impact en local sur Dijon, l'impact national a été plus que impressionnant parce qu'on savait qu'il y avait un vrai manque pour un festival de cette ampleur-là. En tout cas, dans le rap, ça s'est accéléré tout de suite. Il y avait clairement une grosse attente et une grosse envie du public d'en faire partie. Entre 20 et 25 000 personnes par jour actuellement, et on regarde en fonction aussi des évolutions des ventes, si on arrive à faire plaisir un peu plus de monde, si jamais ça se remplit plus vite que prévu. Difficile, à vrai dire, de faire cette première édition sans Ninho, qui aujourd'hui, pour les nouvelles générations, en tout cas de rappeurs, le numéro 1, hein, on peut le dire, avec ces deux stades de France. Donc pour nous, c'était assez essentiel de l'avoir. On a les deux qui remplissent ces stades de France, Ninho le vendredi et Booba le samedi.
Voilà, Vivien Beck, programmateur de Golden Coast, le festival 100% hip-hop qui aura lieu à Dijon les 13 et 14 septembre prochains. Il était au téléphone de Mathieu Culeron.
Allez, merci beaucoup Hélène Philippe pour le journal. Nous, dans un instant, c'est le téléphone sonne. On se transforme avec vous en dompteur de téléphone portable. Un œil sur le ciel d'alors.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Élodie Calac, encore perturbée ce temps.
Oui, quelques averses et du vent parfois fort encore au nord ce soir. Une nouvelle dégradation arrive par l'ouest. Elle va glisser vers l'est dans la nuit. Et attention, le vent de sud se renforce sur toutes les régions du sud entre ce soir et demain, jusqu'à 80 km à l'heure près de la Méditerranée et 90 à 110 sur les massifs et en vallée du Rhône. D'ailleurs, une vigilance orange est en cours pour le Rhône et la Loire.
Et ce sera parfois pluvieux demain.
Oui, de la pluie du sud-ouest au nord-est. Ça deviendra même orageux sur l'Aquitaine l'après-midi. Ce sera de la neige sur les Pyrénées vers 2000 mètres. Attention d'ailleurs au risque d'avalanche. De l'Occitanie vers le Jura, la Provence et la Corse, des éclaircies qui s'élargiront pour l'après-midi. Il y aura des averses sur les Cévennes. Et puis du nord-ouest au nord de la Seine, là ce sera plus changeant avec le retour d'éclaircies. Encore quelques averses, parfois avec un orage sur la Bretagne le matin. Du vent jusqu'à 60 à 70 km à l'heure. Il fera plus doux avec 6 à 14 degrés le matin. Et puis l'après-midi, 12 degrés à Brest, 13 à Metz, Bourges, La Rochelle, 15 degrés à Paris, 18 à Besançon ou à Toulouse, 21 à Lyon et 25 à Perpignan.
Élodie Calac de Météo France.